scientifique, 18 mars 83, Rimont, Père Philippe.
La grâce est-elle la même chose que la vertu, hein? C'est ça, on l'a vu ça. C'est quatre alors. Alors vous voyez bien la difficulté qu'on avait soulignée la dernière fois, ce parallélisme que fait saint Thomas entre le point de vue de la nature et de ses propriétés et la grâce et les vertus théologales. Alors il faut bien comprendre là le raisonnement analogique, hein, parce que si vous êtes tant soit peu univoque, ça ne va plus du tout. C'est là, on voit la subtilité du théologien. Le théologien, par moment, paraît beaucoup plus grossier que le philosophe, et à d'autres moments, il est beaucoup plus subtil. C'est très curieux, ça. Ce serait intéressant de voir ça. Parce qu'il y a une subtilité du théologien que n'a pas le philosophe, et il y a une certaine précision du philosophe que n'a pas le théologien. La précision du philosophe vient du côté de la saisie des principes et la subtilité du théologien vient du côté de l'analogie. Et je crois que c'est constamment comme ça. Il faut être sensible à ça, puisque quand on fait de la philo et de la théologie, c'est du reste ça qui est important. C'est que quand on maintient la philosophie en même temps que la théologie, vous voyez, on sent ça. Bien que moi, c'est l'expérience que j'ai eue au début, quand j'enseignais la philo et j'enseignais la théologie, ce que je fais ici. Mais maintenant, les habitudes sont habituées, alors il y a beaucoup d'huile, on le sent moins. Mais quand on est au début, on le sent très fort. On sent très fort la très grosse différence qu'il y a dans un enseignement philosophique et dans un enseignement théologique. L'enseignement philosophique est beaucoup plus personnel. Et l'enseignement théologique est beaucoup plus dépendant de l'enseignement de l'Église. Et la subtilité du théologien, c'est du côté de l'analogie. Et comme la subtilité de l'exégèse, c'est les paraboles. Alors, l'article 4. La grâce a-t-elle pour sujet l'essence de l'âme ou bien l'une de ses puissances? Première objection. Saint Augustin dit que la grâce est à la volonté ou au libre arbitre comme le cavalier au cheval. Or la volonté est une puissance de l'âme, donc la grâce a pour sujet une puissance de l'âme. Alors tout de suite, je prends cette contrat. Par la grâce, nous naissons de nouveau et devenons fils de Dieu. Nous l'avons vu ça, hein, mais je le reprends pour qu'on soit. Or, la génération a pour terme l'essence antérieure aux facultés. Donc la grâce réside dans l'essence de l'âme antérieure à ses facultés. Cette question dépend de la précédente. Si en effet la grâce est la même chose que la vertu, nécessairement elle a pour sujet une faculté de l'âme. Or, ce sont les facultés de l'âme qui sont les sujets propres des vertus, comme nous l'avons exposé précédemment. Si au contraire la grâce est distincte de la vertu, il est impossible de prétendre qu'une puissance de l'âme soit le sujet de la grâce, puisque toute perfection d'une puissance de l'âme est une vertu, nous l'avons également montré. Étant donné donc que la grâce est antérieure à la vertu, il faut que son sujet soit antérieur aux puissances. C'est l'essence de l'âme. Et de même que dans sa puissance intellectuelle, l'homme participe à la connaissance divine par la vertu de foi, et que dans sa faculté de vouloir, il participe à l'amour divin par la vertu de charité. Ainsi, dans la nature de son âme, il participe selon une certaine similitude à la nature divine par une sorte de génération ou de création nouvelle, la recréation. Récréationnel. C'est facile à comprendre. Hein. Alors vous voyez, ce qui est important, c'est de voir qu'on part de la foi et de l'enseignement de l'Église. Hein. C'est pas du tout un raisonnement d'une conclusion purement philosophique. La foi nous dit que la grâce est autre chose que les vertus théologales. Partant de là, nous pouvons immédiatement inférer que nécessairement la grâce n'est pas reçue dans les facultés et qu'elle est donc reçue dans les sens de l'âme. Ce que ne dit pas la foi. La foi nous dit uniquement une nouvelle naissance. Mais c'est suffisant quand on dit une nouvelle naissance, l'enseignement de Jésus à Nicodème. C'est suffisant quand on dit une nouvelle naissance pour dire que par le fait même, la grâce qui nous fait naître à une vie nouvelle, la grâce par le fait même est reçue dans l'essence de l'âme et non pas dans les facultés. Parce qu'elle nous donne une nouvelle naissance. Ça va très loin, n'est-ce pas ça ? C'est très très important au point de vue spirituel. Parce que toute la question est là. Même au point de vue pastoral. Je crois que la grosse question au point de vue pastoral, elle est là. Parce que toute pastorale dépend d'une théologie. Et toute théologie dépend d'une théologie de la grâce. Et donc toute pastorale dépend de la théologie de la grâce. C'est normal, puisqu'au fond, la pastorale, c'est d'être témoin du mystère de la vérité et de l'amour. Et la pastorale consiste à vouloir communiquer le message que nous avons reçu pour être des témoins du Christ. Alors, est-ce que dans la pastorale, on est cause seconde ou est-ce qu'on est témoin ? Toute la question est là. Et ça, ça repose profondément sur le point de vue de la grâce, la conception qu'on se fait de la grâce. Alors, pas de question là-dessus, je crois, on l'avait vu la dernière fois. Voyons tout de suite la première objection. De l'essence de l'âme découlent ses puissances, qui sont le principe de ces opérations. Pareillement, de la grâce découle sur les puissances de l'âme les vertus qui meuvent ces puissances à leur acte. Dès lors, si la grâce est comparée à la volonté, c'est comme le moteur à son modèle, à son mobile. Et c'est ainsi qu'il faut entendre la comparaison du cavalier à son cheval et non comme l'accident par rapport à son sujet. C'est une métaphore, hein, alors il ne faut pas trop s'inquiéter. Deuxième objection. C'est par la grâce que commencent les mérites de l'homme, dit encore saint Augustin. Mais le mérite consiste en un acte qui procède d'une puissance. Donc la grâce est la perfection d'une puissance de l'âme. Alors, seconde objection. Nous avons du même coup la solution de la seconde difficulté. La grâce, par l'intermédiaire des vertus, eh bien le principe de l'action méritoire, comme l'essence de l'âme, par l'intermédiaire de ses puissances, est le principe de ses opérations. Là, l'analogie joue parfaitement, et c'est facile à comprendre. Troisième objection, si l'essence de l'âme est le sujet propre de la grâce, il s'ensuit que l'âme, par le fait de son essence, est capable de recevoir la grâce. Mais alors, toute âme serait capable de recevoir la grâce, ce qui est faux. Réponse. C'est parce qu'elle fait partie de l'espèce des natures intellectuelles et raisonnables que l'âme est sujet de la grâce. Anima subjectum gratiis secundum quod est in specie intellectualis vel rationalis naturae. C'est plus précis latin. Ce qui me semblait, parce que quand on fait partie de l'espèce de la nature, on ne voit pas comment ça se traduit. On ne va pas dire ça en latin, ça ne va pas. Tandis que c'est in specie intellectualis vel rationis naturae. Or, l'âme n'est pas constituée dans son espèce par une de ses puissances, puisque les puissances sont des propriétés naturelles qui découlent de l'espèce. C'est par son essence que l'âme humaine se trouve appartenir à une espèce particulière, qui n'est pas celle de l'âme des bêtes, ni celle de l'âme des plantes. Et c'est pourquoi, du fait que l'essence de l'âme humaine est le sujet de la grâce, il ne s'ensuit aucunement que n'importe quelle âme puisse être sujet de la grâce. C'est en tant qu'elle appartient à cette espèce toute particulière que l'essence de l'âme a ce principe. C'est facile à comprendre que seule l'âme spirituelle est capable de la grâce. L'âme des bêtes, l'âme de la souris, n'est-ce pas ? Ce souris est une âme. L'âme de la souris n'est pas capable de recevoir la grâce. Ça, c'était les grandes spéculations de tous les théologiens du VIe siècle. Savoir si la souris pouvait recevoir la grâce. Non escapax. Donc, on ne pouvait pas la baptiser. Alors, la quatrième objection, l'essence de l'âme est antérieure à cette puissance. Or, l'antérieur peut se concevoir sans ce qui la suit. On pourra donc, alors, concevoir la grâce existant dans une âme, abstraction faite de toute partie ou faculté de cette âme, c'est-à-dire de la volonté, de l'intellect et autres du même genre. Cela répugne. Réponse : les puissances de l'âme sont les propriétés naturelles qui découlent de l'espèce. L'âme ne peut donc exister sans elle. Mais à supposer qu'elle existât sans ces puissances, l'âme n'en serait pas moins classée dans l'espèce des êtres intellectuels raisonnables. Non pas évidemment par le fait d'avoir actuellement ces facultés, mais parce qu'elle est naturelle à une, mais parce qu'il est naturel à une essence de cette sorte que de telles puissances en découlent. Donc, vous voyez, tout ça, c'est toutes les objections. Ce serait intéressant à bien voir de près. Hein. Cette question est intéressante, très intéressante au point de vue des rapports entre le point de vue philosophique de ce que c'est que l'âme spirituelle, capable de recevoir la grâce. Et l'âme spirituelle est en puissance obédientielle à recevoir la grâce. Mais la puissance obédientielle, c'est pas l'être, c'est l'esprit. Ça qui est très important à bien saisir. Hein. C'est parce que l'âme spirituelle, c'est l'esprit. Un esprit créé. C'est parce que c'est un esprit créé qu'elle est capable de recevoir la grâce. Qu'elle est ouverte à la grâce. C'est ça la puissance obédientielle. Par rapport à l'action de Dieu qui peut agir sur la grâce. Dieu seul peut communiquer la grâce. Puisque la cause principale de la grâce, ne l'oublions pas, c'est la très sainte Trinité. Et la cause principale des sacrements, c'est le Christ. Hein, il ne faut jamais oublier ça. On veut comprendre les effets particuliers du mystère. Hein. La cause principale de la très sainte Trinité, de la grâce, c'est la très sainte Trinité. Qui est cause de la grâce, cause propre. L'humanité sainte du Christ est cause instrumentale. Tandis que pour les sacrements, dans la mesure où il est source et tête, donc la grâce propre des sacrements nous unit à la tête. Vous voyez ? Et la très sainte Trinité est source de la grâce. C'est pour ça que la grâce peut être donnée sans les sacrements. Tandis que elle ne peut pas être donnée sans la très sainte Trinité. Et sans le concours du Christ. Impossible, puisqu'il est cause générale de la grâce. Mais par les sacrements, nous sommes reliés particulièrement à Jésus comme tête. Alors, on veut ici montrer comment l'âme spirituelle, en puissance obédientielle, sa capacité vis-à-vis de la grâce. Et parce que la grâce est reçue dans l'âme spirituelle, les vertus théologales, ne sont pas reçues directement dans l'âme spirituelle, mais dans ce qui émane des vertus spirituelles, c'est-à-dire les puissances. La dynamis, la puissance intellectuelle, l'intelligence et la puissance volontaire. Donc tout repose là-dessus. Oui, bien, tout repose là-dessus. C'est que, de fait, la grâce ne peut pas être reçue directement dans les puissances. Pourquoi ? Parce que la grâce est distincte des vertus. Et que la grâce n'est pas premièrement et immédiatement puissance d'opération. La grâce sanctifie en premier lieu. Et donc la grâce est liée à la personne en premier lieu. Elle n'est pas liée premièrement à l'opération. Opération sequitur esse. Et l'essai est lié directement à la personne. Vous voyez ? Donc ça, il faut essayer de jongler avec ça. Parce que vous voyez bien, là, Saint-Thomas jongle. Hein. C'est évident. Jongleur Notre-Dame. Par rapport à la théologie, hein. Il jongle entre l'âme spirituelle et les puissances. Mais là, vous voyez qu'au point de vue psychologique, hein, lisez ça avec une mentalité psychologique d'aujourd'hui. Vous ne comprenez rien du tout. Vous dites que c'est un saint bavardage. Vous voyez, vous ne l'oubliez pas du tout, c'est pas ça du tout, c'est quelque chose de merveilleux. C'est de voir analyser profondément, au point de vue philosophique, ce qu'est l'âme et ses facultés, et analyser profondément la sanctification de notre âme. La sanctification se fait par la grâce. C'est l'âme, c'est la grâce qui sanctifie. Ce n'est pas la vertu de la grâce. La vertu de la grâce permet la croissance de la sainteté. Alors, toujours les mêmes choses, vous voyez, le point de vue de la sanctification et la croissance de la sainteté. C'est deux choses différentes. Donner l'être et donner les opérations. Les vertus théologales se situent au niveau des opérations. Et la grâce se situe au niveau de la sanctification. Donc c'est quelque chose de personnel, la sanctification. Les opérations aussi, c'est des choses personnelles. Mais c'est les opérations présupposent la personne. Puisque la personne, c'est ce qui est capable d'opérer. C'est ce qui est responsable de les opérations. Je crois que les théologiens ont tout soutenu. Non, je ne vois pas qui. Je ne vois pas qui.
Le maître des sentences, quand il dit que la grâce est faite uniquement par la raison, selon qu'elle a, enfin, selon la raison.
C'est-à-dire, le maître des sentences disait surtout que la grâce était le Saint-Esprit. Oui, c'était surtout ça. Alors évidemment, ça se ramenait à la charité. Vous voyez,
il dit que selon qu'elle fait l'homme agréable à Dieu, elle est dite grâce, et selon qu'elle...
Oui, c'est ça. C'est... Au fond, si vous voulez, le maître des sentences prenait des distinctions formelles sans prendre des distinctions réelles. Mais c'est surtout le maître des sentences, c'est de ramener la grâce à l'Esprit Saint. Oui, de ne pas en être un habitus. Et alors, c'est beaucoup plus facile du côté de la charité. Oui, parce que vous êtes auxilium. Alors, du côté auxilium, du côté de la grâce, vous pouvez très bien dire, chaque fois que vous faites un acte de charité, l'Esprit Saint est là présent. Vous voyez ? Tandis que c'est beaucoup plus difficile par rapport à la grâce. Et c'est pour ça que ce que saint Thomas essaie, c'est de donner une théologie de la grâce. Et on comprend très bien. Donner une théologie de la grâce, c'est d'essayer de montrer l'enracinement de l'Esprit Saint dans l'âme qui respecte parfaitement la cause secours. Et qui ne fait pas de nous uniquement des instruments. Parce que faire de nous uniquement des instruments, c'est ne plus pouvoir répondre, voyez, c'est tomber dans l'illuminisme. Donc c'est ne plus pouvoir répondre en face de l'illuminisme. L'illuminisme faisant de nous tous des instruments de Dieu. Alors que de vous, moi j'agis toujours selon le Saint-Esprit, je ne suis plus responsable. C'est le Saint-Esprit qui agit en moi. Ah ben c'est très bien, vous êtes responsable de vos actes. Même quand vous agissez selon le souffle de l'Esprit-Saint. Et ceci parce que la grâce s'enracine dans l'âme. Alors vous maintenez la causalité selon. Tandis qu'il y a toute une tendance de l'ontologie, et on comprend très bien des sentences qui étaient néoplatoniciens. C'est le néoplatonisme, ça. C'est la tendance du néoplatonisme. Et c'est donc la tendance orthodoxe. Voyez, au fond, le gros point théologique par rapport aux orthodoxes, c'est le mystère de la grâce. Alors vous voyez, c'est intéressant parce qu'au fond, on pourrait dire tendance moderne. Oui. Tendance moderne, au point de vue théologique. Hein. Tendance moderne, au point de vue théologique. C'est, au fond, d'exalter la nature humaine. Hein. C'est pour essayer de comprendre les deux extrêmes sur la même confusion et la réponse qui se fait par le Seigneur. Thomas Bacchus. Le mystère de la grâce. Les deux extrêmes orthodoxes, l'extrême droite et l'extrême gauche. On est alors l'extrême droite orthodoxe, c'est de dire c'est le Saint-Esprit. Oui, quand on est illuminé, on est toujours un peu comme les orthodoxes, les russes, ça va. Pour être illuminé, on est dans une philosophie, théologie merveilleuse, théologie mystique. Voilà. C'est le Saint-Esprit héroïque à ce moment-là, c'est la charité. J'agis par charité et avec l'Esprit Saint. Et je suis uniquement un instrument. Je ne sais plus très bien ce que je fais, j'agis avec le Saint-Esprit. Croyez bien, j'agis avec le Saint-Esprit, tout ce que je fais est saint. Alors c'est le Saint-Esprit. L'extrême gauche, dis bien. L'extrême gauche théologique, c'est quoi l'extrême gauche théologique? C'est de vouloir vous conformer entièrement, vous adapter entièrement à la condition humaine. Et vous faites ça par le point de vue de la sociologie. Et c'est la sociologie qui commande la pastorale. Je grossis, mais je crois que c'est vrai. Du moins, c'est ce que j'ai entendu à Strasbourg. Strasbourg, c'était Genève, et Genève, c'est la France. Là, vous voyez, si on essaie de comprendre, il faut comprendre ça théologiquement. Après, on essaie de saisir pratiquement. Il faut d'abord saisir théologiquement. Eh bien, au point de vue, c'est très net que c'est le point de vue, si vous voulez, de considérer la condition humaine. C'est assez normal, c'est la tendance de la psychologie et de la sociologie. La sociologie ne regarde plus la condition humaine, il n'y a plus de philosophie. C'est la condition humaine. Si la sociologie va commander une pastorale, qu'est-ce que ça va être? Ça va être uniquement le fait qu'il faut s'adapter parfaitement à la condition de l'homme dans laquelle il se trouve actuellement. Et c'est en fonction de ça qu'on va adapter entièrement le point de vue pastoral. Et on va entrer pleinement et totalement dans ce que représente le milieu dans lequel on est. Donc la pastorale est nécessairement à ce niveau. Il y a quelque chose de juste, hein. Des deux côtés, il y a quelque chose de juste. J'essaie de comprendre. Je crois des deux côtés, vous voyez, des deux côtés, il y a le télescopage de du mystère de la grâce. C'est très curieux. Parce que de ce côté-là, côté extrême gauche. Qu'est-ce qu'il y a? C'est qu'on ne regarde plus la grâce comme une nouvelle nature. On regarde uniquement la grâce perfectionnant la nature. Si je regarde la grâce comme perfection de la nature, c'est-à-dire c'est le succès d'année de la théologie de Suarez. Hein? J'ai oublié ça. Quand le père Garibou Lagrange traitait de la question, il descendait de sa chair, il enlevait sa calotte, et puis il disait, maintenant je lutte contre ta foi. Il était contre ce point de vue-là, qui était ce qu'on appelle le point de vue de la grâce quad modum. Il faut savoir les termes, c'est la scolastique ça, quad modum. C'est la grâce quad modum, c'est-à-dire on ne voyait plus la grâce comme nouvelle nature, comme une nouvelle naissance, mais on regardait uniquement la grâce perfection ou perfectionnant la nature humaine. Si la grâce est une perfection de la nature humaine, la grâce est relative à la nature humaine. Et donc je dois saisir, et comme la nature humaine, il n'y a plus de nature humaine aujourd'hui, pousser un peu plus, c'est uniquement l'aspect sociologique. Je dois connaître l'homme dans son milieu tel qu'il est. Et alors je m'adapte à lui. Et je lui mets un chapeau dessus. Un chapeau de la grâce. C'est nettement ça. Je veux sauver ce qu'il y a d'humain encore dans l'humanité et je veux la sauver. Vous voyez? C'est diamétralement opposé à l'attitude orthodoxe. Les orthodoxes, eux, comprennent au contraire que la grâce, d'une certaine manière, c'est l'Esprit Saint, donc c'est substantiellement une nouvelle vie qui a son rythme propre, et puis l'homme, vous voyez, l'homme comme tel, hein, il doit suivre, c'est tout. Il doit suivre. Alors, il y a un peu d'illuminisme. Très très bon quand vous êtes vraiment mu par le Saint-Esprit. Mais les lendemains de l'ivresse sont un peu plus difficiles à vivre, n'est-ce pas? C'est un peu plus difficile à vivre, les lendemains de l'ivresse. Quand on est illuminé, c'est très très bien, c'est parfait. Mais le lendemain, c'est dur. Parce que le fait, il ne reste rien. La position de saint Thomas, n'oublions pas, on est en théologie scientifique. Donc, en théologie scientifique, on ne regarde pas le point de vue pratique. Ces deux attitudes-là, c'est des attitudes pratiques. Mais il manque une théologie scientifique de à l'un et à l'autre. Il y a une négation de théologie scientifique. On l'a dit, on la rejette. Elle ne sert plus à rien. C'est très vrai qu'elle ne sert à rien. La théologie scientifique, il faut accepter, il faut dire ouvertement, ça ne sert à rien. Mais ça vous rend intelligent. Or, être intelligent, ça ne sert à rien. Vous voyez, c'est très ennuyeux d'être intelligent. Parce qu'il y a des choses que vous ne pouvez plus faire. Vous avez une vision qui va plus loin, mais c'est vrai que ça ne sert à rien. La théologie scientifique, ça ne sert à rien. Mais ça illumine les confusions. On voit les deux confusions. On voit qu'on oublie que la grâce est une nouvelle nature. Quand je dis que la grâce est une nouvelle nature, je mets la main aux orthodoxes. Et quand je dis que la grâce est un habitus entitatif, qui vient perfectionner, je donne la main aux autres. Je peux donner la main aux deux. Il y a quelque chose de vrai des deux côtés. Vous voyez ? Le quelque chose de vrai du côté des orthodoxes, c'est de comprendre qu'en effet, la grâce a une nouvelle nature et donc un nouveau rythme. Je dois respecter ce qu'il y a de propre au développement de la vie divine, qui a un rythme propre. Et donc, ma pastorale, qui consiste à communiquer aux autres la vie divine, doit trouver son rythme propre à partir de la théologie. Son rythme propre, sa finalité propre. Mais elle doit tenir compte de la situation sociologique des hommes. Elle doit tenir compte du milieu dans lequel les hommes vivent pour qu'on puisse les atteindre. Pour qu'on puisse les aider. Autrement, on va planer. Alors c'est très bien pour les moines de planer, mais pour l'apôtre, c'est gênant. Le moine doit planer, c'est évident. Mais pour l'apôtre, il doit quand même être attentif à la situation des gens et essayer d'atteindre leur cœur. Dans cette perspective, je sais très bien que c'est le cœur de l'homme. Ce n'est pas l'ouvrier comme tel qu'on va sanctifier. Ce n'est pas le patron comme tel qu'on va sanctifier, ce sont des fonctionnaires. Je ne peux pas sanctifier le fonctionnaire. La grâce va plus loin. La grâce n'atteint pas l'aspect du conditionnement humain. Elle ne l'atteint pas directement. C'est le cœur de l'homme que je dois atteindre. Je dois réveiller dans ce milieu sociologique si fort. Je dois réveiller le père de famille. Parce que le père de famille, c'est le cœur. Vous voyez, c'est là la grande chose d'une pastorale familiale. Parce que je crois qu'aujourd'hui, on ne peut pas atteindre, on ne peut pas baptiser un fonctionnaire. Même s'ils sont des hauts fonctionnaires. Et je dirais, plus ils sont hauts, plus le cœur de l'homme est loin. C'est sûr, parce qu'il y a plusieurs couches. Quand ils sont des tout petits fonctionnaires, ça va un peu. Mais quand ils sont des hauts fonctionnaires, c'est très difficile d'atteindre le cœur de l'homme. Alors, c'est le cœur de l'homme qu'on doit atteindre. Parce que la grâce ne modifie rien au niveau du fonctionnaire. Il n'y a pas de fonctionnaire chrétien. Je suis le facteur chrétien. Alors, il y a une casquette particulière du facteur chrétien, n'est-ce pas ? Parce que c'est nécessaire qu'il y ait ça. Non, ça ne peut pas. On sanctifie le cœur de l'homme. Et c'est ce cœur de l'homme qu'on doit retrouver dans cette sociologie, ce que la sociologie ne dit pas, pour le sanctifier. Parce que la grâce atteint directement le cœur. Si je ne vois plus la grâce qui atteint le cœur et qui est une nouvelle nature, alors évidemment, je cours derrière pour essayer de rattraper les morceaux dans le point de vue de l'opération, dans le point de vue de ses activités, parce que c'est la seule chose qu'on peut faire. Alors à ce moment-là, on a une pastorale toute différente. Vous voyez, ça je crois que c'est très important de saisir qu'une pastorale dépend d'une théologie. Si on ne voit pas ça, je crois que ça, on perd du temps, n'est-ce pas ? On perd du temps parce qu'après le pastoral, on en prendra une autre, on verra que c'est inefficace, comme le monde va beaucoup plus vite que l'Église. L'Église est lente comparativement au monde. Ça, c'est la lenteur de l'Église, parce que l'Église, c'est toujours le magnanime. Le magnanime est lent dans sa démarche. Il est lent dans sa démarche. L'Église est lente dans sa démarche. Parce qu'elle a l'éternité pour elle. Tandis que le monde, il est rapide dans ses démarches. Il va toujours plus vite. Parce qu'il est dans le temps, il n'a pas l'éternité. Alors, il doit aller très vite. Alors, si on se met au rythme du monde, c'est-à-dire au rythme de la sociologie, on est toujours en retard. Et on est toujours battu. Si on redécouvre dans le point de vue de l'homme, le cœur de l'homme, qui lui a quelque chose d'éternel, parce que c'est l'image de Dieu. C'est l'image de Dieu, le cœur de l'homme. Et c'est ça qu'on doit redécouvrir. Si on redécouvre l'image de Dieu dans l'homme, le cœur de l'homme, ça on peut le baptiser. On peut parler son langage. Vous voyez ? C'est pour ça que c'est très important. Si on redécouvre l'image de Dieu dans l'homme, le cœur de l'homme, ça on peut le baptiser. On peut parler son langage. Vous voyez ? C'est pour ça que c'est très important. Il y a un langage, vous voyez, qui est propre à l'Évangile. Quand on a voulu redonner, vous voyez, c'est très significatif ça, vous voyez, on a voulu dire, il faut réexpliquer l'Évangile aujourd'hui. Il faut réécrire l'Évangile aujourd'hui. Alors, à la place de prendre des analogies biologiques, on prend des analogies techniques. C'était dit ça. Alors moi, je m'invente. Et ils font ça pour la pastorale plus immédiate. Peut-on réécrire l'Évangile avec une technique ? Non. Parce que l'Évangile est fait pour le cœur de l'homme. Alors, ce sont les analogies biologiques qui servent pour éclairer le cœur de l'homme. Tandis qu'au contraire, le point de vue technique, c'est le travail. Alors, il faut être attentif au travail. Il faut pouvoir sanctifier le travailleur pour retrouver son cœur. Parce que je ne peux pas baptiser directement le travail. Il n'y a pas un travail chrétien. Mais il y a des hommes chrétiens qui travaillent. Heureusement. Il y a des hommes chrétiens qui travaillent. Et puis, il y a des hommes non chrétiens qui travaillent. Et qui travaillent très bien. Il faut que le chrétien comprenne la grandeur du travail, la noblesse du travail, pour redécouvrir l'homme travailleur. Et c'est l'homme travailleur dont on découvre le cœur. Alors on redécouvre le cœur du père, le cœur de l'homme travailleur qui travaille pour sa famille, et qui a un souci de travailler pour sa famille, pour le sanctifier. Et on doit connaître ce milieu sociologique dans lequel il est, on doit le connaître, pour pouvoir mieux redécouvrir, voir quels sont les obstacles qui sont dans ce monde sociologique. Ce monde sociologique me doit m'aider à voir tous les obstacles qui empêchent le cœur de l'homme de s'épanouir et de mettre une amertume dans le cœur de l'homme. Vous voyez, je crois qu'il faut réfléchir sur ce petit tableau, hein. Et si vous n'êtes pas d'accord, vous me le direz, parce que ça me semble très important, parce qu'il faut essayer dans cette théologie qui nous est donnée là, qui est une très belle théologie de la grâce, qui est la grande théologie de la grâce. Hein. Il n'y en a pas 36 de théologie de la grâce, vous savez. Celle de saint Thomas. Et celle de saint Bonaventure. Ce serait très intéressant, juste après, faire de celle de saint Bonaventure. Oui.
Est-ce que, du point de vue de l'illuminisme, est-ce que tu n'as pas trouvé un peu dans ce tableau
charismatique ? On peut retrouver ça. J'aime mieux mettre là, parce que les orthodoxes, les charismatiques n'ont pas encore beaucoup de théologie. Vous voyez, il faut les respecter tant qu'ils n'ont pas encore de théologie. Le jour où ils auront une théologie charismatique, alors on verra à ce moment-là. Mais les charismatiques qui veulent rester fidèles veulent avoir une vraie théologie traditionnelle. Vous voyez, en comprenant le danger. C'est évident qu'il y a un danger. C'est évident que les charismatiques sont de ce côté-là, pas de l'autre côté. Vous voyez, ça, c'est plutôt de ce côté-là. Hein. Ils ont toujours un pied là. Oui, vite.
Est-ce que le don...
je mets d'abord le cœur. Ce qui m'a toujours frappé beaucoup dans l'Évangile. Relisez l'Évangile dans cette lumière-là. Qu'est-ce que Jésus fait? C'est toujours réveiller le cœur de l'homme. Alors je disais, le cœur de l'homme. C'est réveiller le cœur de l'homme. Bon, le cœur de l'homme, il a, selon une bonne anthropologie, il a 7 dimensions. Donc, ce sont les 7 dimensions du cœur de l'homme qu'on doit rappeler.
Dans le cas présent, pour le travail, oui. L'homme ne travaille pas d'abord théoriquement pour sa famille, il travaille pour vivre.
Oui, mais est-ce que beaucoup d'hommes qui sont mariés, venez, travaillent pour leur famille? Je crois. Vous voyez, et c'est le cas général, vous voyez, c'est pour ça que je prenais le cas général de l'homme marié qui travaille pour sa famille. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est que le cœur de l'homme.
D'autres accents, par exemple, la façon dont on voit, par exemple, dont va la guerre, oui. L'homme, par rapport à son travail, le monde du travail.
Tout à fait, tout à fait. C'est pour ça que je dis, au fond, il y a les 7 dimensions du cœur de l'homme. Et toute notre philosophie doit nous donner ces 7 dimensions du cœur de l'homme. Vous voyez ? Et c'est par rapport à ces 7 dimensions du cœur de l'homme que nous pouvons l'atteindre. Et alors à ce moment-là, le point de vue sociologique, qui est avant tout, hein, aujourd'hui les études sociologiques sont avant tout du côté du travail, c'est sûr, et on comprend très bien, le point de vue sociologique est commandé par l'homme. Alors, il y a cette dimension, dans les 7 dimensions, il y a homo, le mot qui est l'homme qui travaille, l'homme qui aime, l'homme qui est dans un milieu politique, l'homme qui est parti de l'univers, l'homme, vous voyez, 7 dimensions, l'homme vivant, les 7 dimensions, je particularise, vous voyez, je dis, je particularise spécialement le cœur de l'homme père, parce que je vois que selon l'écriture, c'est avant tout cela, mais tous les autres sont, il ne faut surtout pas exclure, hein. Faut surtout pas. Mais il y a quelque chose de privilégié, vous voyez. Et ça, je crois qu'on a tous senti ça, et dès que sa vie apostolique, on a tous senti, vous voyez, c'est les moments où le cœur de l'homme est, alors j'allais dire, directement atteint comme père de famille, ou comme ami, que la grâce passe. Vous voyez, alors, s'il n'est pas encore marié, je prenais cet exemple, prenez toujours cet exemple que je prends à propos de ce l'assistant de Piaget, tu vois, donc lui qui enseignait la psychologie, du fait même que je sais qu'il est fiancé, ah, c'est là où j'atteindrai. Mais et au fond, je crois que c'est la même chose. Un travailleur, vous savez qu'il est engagé pour sa famille, qu'il aime ses enfants, c'est là où j'atteindrai mieux. Mais pour aller plus vite. Mais il y a les 5 dimensions, ça, tout à fait, d'accord. Autrement, on ne les utiliserait pas. Hein. Oui.
Dans l'évangile, est-ce que le lieu où c'est le travailleur qui est pris de méga, c'est pas.
Ah, il y a plusieurs lieux, du reste. Hein. Il n'y a pas qu'un seul lieu dans l'évangile. On voit le travailleur. Mais regardez attentivement, c'est toujours le réveil de l'homme. En fait. Oui. Le travailleur qui a des dettes. Hein, c'est celui-là que vous voulez dire. Le travailleur qui a des dettes. Hein. On vous sort le coup, on va lui dire, tu vas payer, on va avoir. Très bien, patron tyrannique. On va le mettre à la dette, tu as des dettes. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, ah non, je vais faire la miséricorde. Il est atteint. Donc là, il ne se place pas au niveau sociologique. Il regarde l'homme comme un individu. Et puis quand il voit que l'autre n'a pas la même miséricorde vis-à-vis de l'autre. Ah, ah. C'est donc vraiment le cœur de l'homme qu'il essaie de réveiller. Et que pour pouvoir recevoir la grâce, il faut que le cœur de l'homme soit capable d'être miséricordieux. Et au fond, c'est tout le temps comme ça, moi, il me semble, dans l'évangile.
Le travail est pris dans la mesure où il permet un don et qu'il ouvre le.
Voilà. Et le travail est important, c'est une dimension humaine, et je peux saisir la dimension de l'homme travailleur, c'est évident. C'est parce que le travail est lié à l'homme, c'est pour ça qu'on fait une philosophie du travail. Vous voyez ? S'il n'y avait pas de philosophie du travail, on ne pourrait pas. Mais puisqu'il y a une philosophie du travail, la philosophie du travail, c'est ramener le travail à l'homme.
C'est point de vue politique.
Quoi ?
C'est point de vue politique, directement que l'homme travaille.
Ah non, non, non. Non, 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 c'est l'homme travailleur. L'homme politique, c'est une autre dimension. Vous ne pouvez pas dire que l'homme travailleur, vous voyez, c'est une autre dimension. Le travailleur peut être engagé, c'est ce qu'on disait, le travailleur peut être engagé dans sa maison, il peut être engagé dans une dimension politique. Mais l'homme travailleur a sa dimension propre.
La maison, c'est la famille.
Oui, tout à fait, c'est la famille. Mais je dis qu'il y a une dimension propre à l'homme travailleur, parce que comme homme travailleur, il y a quelque chose à découvrir. Et on peut découvrir l'homme travailleur et lui faire comprendre certaines choses. Vous voyez ? Mais je dis, le lieu privilégié, c'est évidemment le cœur du père. Ou le cœur de la mère. Bon. C'est à réfléchir, ça. Il ne faut surtout pas nier les deux. Vous voyez, en disant, j'en ai pas besoin. Nous travaillons aujourd'hui au milieu de ces deux choses-là. On doit s'en servir pour essayer progressivement, dans une théologie que nous croyons saine, qui est la théologie de l'Église, de la grâce, qu'elle soit de saint Thomas ou de saint Bonaventure, c'est la même, et c'est cette théologie que nous devons maintenir, soit par rapport aux orthodoxes, soit par rapport aux charismatiques. On garde une ouverture, vous voyez, vis-à-vis des orthodoxes, vous savez très bien, du fait même qu'on dit qu'on aime saint Jean, qu'on a les bras ouverts. Expérience au voir, c'est un miracle. Un orthodoxe grec qui s'occupe en Macédoine de tous les étudiants et qui est quelqu'un qui a une très grosse influence. Alors il me dit, ah, vous prêchez ? Je prêche sur Saint Jean. Ah, vous prêchez sur Saint Jean. Alors il m'a pris comme ça, en me tapant sur le dos, vous êtes un véritable orthodoxe. Alors après il m'a posé la question, qu'est-ce que vous faites de Heidegger ? À dire, pas dans la prédication, pas dans la théologie. Ça m'intéresse au point de vue philosophique, mais ça ne sert à rien au point de vue théologique. Ah, vous êtes un véritable orthodoxe. Et on voyait très bien, après je parlais avec lui, il m'a dit oui, les jeunes orthodoxes, quand on entend ça d'un orthodoxe, c'est extrêmement curieux, parce qu'ils ont un tel sens de la tradition, les jeunes orthodoxes veulent une nouvelle théologie à base de Heidegger. Vous ne croyez pas qu'ils se trompent? Ah, je dis oui, ils se trompent, je suis persuadé. Il faut pouvoir leur répondre. Mais oui, c'est ça la difficulté. Et c'est très intéressant parce qu'on sent très bien que les orthodoxes actuellement sont pris eux-mêmes par une nouvelle théologie qui sera la théologie heideggerienne. Et la théologie heideggerienne les conduira vers des impasses. Et ils n'auront pas la possibilité de répondre que dans l'Église catholique nous avons grâce à la théologie scientifique de saint Thomas. Au moment de crise, on remonte à la source. Mais quand ça va bien, on n'a pas besoin. C'est un pastoral, ça va très bien. Mais au moment de crise, si on veut comprendre quelque chose, si on veut ne pas se durcir, parce qu'on pourrait se durcir en disant, moi je suis du côté intégriste. Voilà. Parce que les intégristes sont de ce côté-là. Mais avec la difficulté, c'est qu'ils ne sont souvent pas toujours mystiques. S'ils sont mystiques, ils sont sauvages. Tous les mystiques sont sauvages, n'est-ce pas ? S'ils sont mystiques, même si c'est un peu illuminé, c'est plus souple. Mais quand ils sont intégristes, c'est très difficile. C'est la sacrée droite. Alors la sacrée droite, ça reste ici. Ça reste sur cette petite bande. Mais ça n'entre pas dans l'illuminisme. Alors ça, c'est très difficile. Tandis qu'au contraire, on peut toujours leur faire dire, mais oui, vous êtes dans la chose. Alors il faut, dans les moments, on n'a pas le droit de se séparer d'eux, on n'a pas le droit de se séparer d'eux. C'est évident. Le danger, c'est quand ils en font une systématique. Alors ils deviennent les opposés. Oui. Alors vous avez les deux opposés qui se regardent droit. Parce que vous systématisez. Systématiser la pastorale, c'est la chose la plus terrible. Parce que la pastorale est nécessairement quelque chose qui ne peut pas être systématisé. C'est quelque chose qui est dans l'ordre pratique. Vous voyez ? C'est quelque chose qui est dans l'ordre pratique et qui demande justement, parce que ça change le climat sociologique, c'est bien évident, ça change. La sociologie, elle, dans 10 ans, elle sera différente. Je vous affirme, dans 10 ans, elle sera plus la même qu'aujourd'hui. Parce que ça change tout le temps. C'est l'heure ? Ça a sonné. Alors nous restons à la question 3, différentes espèces de grâce, la fois prochaine. C'est une question très importante aussi.